La correspondance de Roland est, pour le XXe siècle, pour les 50 premières années du XXe siècle, quelque chose d'aussi important que la correspondance de Voltaire pour le XVIIIe.
Jean Guéhenno, écrivain.
C'est encore le résultat d'au-dessus de la mêlée, cette position morale qu'au-dessus de la mêlée avait donnée à Roland, a fait de lui, je ne sais pas, une sorte de directeur de conscience pour le monde entier.
Ça peut pas faire de mal.
Et la petite villa de Villeneuve, où je l'ai vue deux fois, je crois, c'était, dirais-je, un bureau d'information des misères du monde. Dans une des lettres que j'ai de Roland, on peut lire ce mot merveilleux. Là où bat plus fort le cœur du monde, je sens battre plus fort le mien.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Vous m'avez écrit en 1914 des pages admirables. Permettez-moi de vous le dire, des pages immortelles de foi en la grande communion des âmes européennes, déchirées par le crime et la folie. Vous ne vous en souvenez sans doute pas, mais en ces heures exceptionnelles, il vous est arrivé sans y penser d'atteindre aux cimes de votre être. Je crois qu'elles seront lues longtemps, longtemps après nous. Et que nos souffrances en commun, notre communauté d'hommes libres et persécutés, feront plus tard l'envie de bien des générations. Romain Roland, Paris, 1920.
Roland était le premier Français auquel je parlais depuis 3 ans, mais au cours de ces 3 ans, nous nous étions plus rapprochés que jamais. Dans cette langue étrangère, je parlais plus familièrement et plus librement qu'avec aucun de ceux de ma patrie. Je savais parfaitement que cet ami qui était debout devant moi était l'homme le plus important de cette heure de l'histoire du monde, que c'était la conscience morale de l'Europe qui me parlait. Stefan Zweig, Le Monde d'hier, 1934. Cet exercice d'admiration mutuelle témoigne d'une magnifique amitié qui a duré 30 ans. Celle qui a réuni de 1910 à 1940 deux écrivains de renom, le français Romain Roland et l'autrichien Stefan Zweig. De 15 ans son aîné, le premier fascine le second par son engagement pacifiste de la première heure. Né en 1866 en Bourgogne, Romain Roland a 48 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Publié dès octobre 1914, son appel à refuser la guerre et à rester au-dessus de la mêlée fait scandale. Son cadet, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a 31 ans lorsqu'il s'enthousiasme à la lecture de Jean-Christophe, le grand roman de la fraternité publié par Romain Roland en 1912 et que nous avons eu le plaisir d'écouter la semaine dernière. Ce soir, je suis toujours en compagnie de mon ami et camarade de la Comédie française, Hervé Pierre. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Guillaume.
Merci de nous faire partager votre passion pour cet humaniste engagé, Romain Roland. Tel Olivier et Christophe, les héros de Jean-Christophe, évoquons une autre belle amitié franco-allemande, cette fois-ci franco-autrichienne, qui a su vaincre les épreuves de l'histoire. Nous voyagerons dans la passionnante correspondance entre Romain Roland et Stefan Zweig, publiée en 3 volumes chez Albin Michel, dans la traduction de Sigrun Barat. Cher Hervé, vous serez la voix de Romain Roland et je serai votre interlocuteur, Stefan Zweig. Ouvrons leur première lettre et assistons à la naissance d'une amitié entre deux esprits profondément européens. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois à Paris en 1911, fréquentant le même cercle d'amis poètes, parmi lesquels Charles Péguy et Émile Verhaeren. En 1912, Stefan Zweig publie à Berlin une critique élogieuse de Jean-Christophe, qu'il salue comme un événement éthique plus que littéraire. Le jeune Autrichien se propose immédiatement de traduire l'œuvre et de se faire le porte-parole de l'auteur français en Allemagne.
Paris, 1er mai 1910. Cher monsieur, je ne suis pas surpris que nous sympathisions. Depuis que j'ai lu pour la première fois des vers de vous, je vois que nous sentons de même bien des choses. La poésie de l'eau, de la musique et du silence. Et vous êtes un Européen. Je le suis aussi, de cœur.
Vienne, 12 février 1911. Cher monsieur, je serai de passage à Paris pour un voyage en Amérique les 20 et 21 février, et il me serait un plaisir extraordinaire de pouvoir vous voir. Nous sommes maintenant en Allemagne un cercle d'hommes qui vous aiment bien, qui font des efforts chez les éditeurs pour avoir le Jean-Christophe entier en allemand. Je serais si heureux si je pouvais vous raconter que les meilleurs, et surtout à Vienne, vous aiment bien. Si possible, donnez-moi 2 heures différentes où je pourrai vous voir.
Paris, 26 décembre 1912. Mon bien cher ami, en lisant votre article dans le journal de Berlin, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce n'est pas seulement le plus magnifique article qui a été écrit sur mon œuvre. C'est une étreinte fraternelle. J'y réponds de tout cœur. Il est bon de sentir au milieu des orages de cette Europe où grondent les menaces de la guerre, cette intime union des esprits qui se comprennent et qui s'aiment. Puissions-nous travailler ensemble au rapprochement de nos peuples, ces deux frères ennemis.
Deux ans plus tard, les événements donnent raison au pressentiment de Romain Rolland. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, les deux hommes poursuivent leurs échanges passionnés, déjouant les pièges de la propagande et de la censure. Au fil des lettres se révèlent leurs tempéraments différents. Romain Rolland, fidèle à ses convictions pacifistes, s'engage dans l'action humanitaire depuis sa retraite en Suisse, tandis que Stefan Zweig, nommé au service des archives militaires, partira visiter le front. Il prend conscience de l'horreur des combats et ressent la nostalgie d'un monde disparu, le monde d'avant, qui lui inspirera, des années plus tard, le titre de son chef-d'œuvre posthume, « Le monde d'hier ». Vienne, 6 octobre 1914. Merci beaucoup, très cher ami, pour vos salutations en ces temps difficiles. Jamais je n'ai senti davantage que seule la détermination à être juste et absolument sincère pourrait donner du poids à notre amitié. Et comme c'est curieux, je ne trouve jamais dans vos paroles, et vous non plus dans les miennes, je l'espère, le mot « haine ». Ou seulement son ombre. Lorsque j'ai lu hier que Charles Péguy était tombé, je n'ai senti en moi que deuil et consternation. Nulle part dans mon cœur ne s'était associé le mot « ennemi ». Quel malheur pour cet homme noble et pur. Et combien le monde a perdu ces jours-ci de ces hommes morts précocement, et en qui sommeillait en grand artiste un Beethoven ou peut-être un Balzac. Jamais l'Europe ne saura ce qu'elle a perdu dans ces batailles. C'est la même chose des deux côtés. Comme vous le dites si bien, il ne s'agit pas pour nous de compter notre douleur. Le sang se fige dans mes veines lorsque je pense à ces malheureux que l'on veut laisser crever dans la haine, sans secours, blessures purulentes et membres déchiquetés. La guerre nous impose, à mon avis, de nous taire, nous qui ne combattons pas. Mais les blessés, les malades, les prisonniers, ce n'est plus la guerre, c'est seulement la misère. La misère infiniment tragique et humaine que le poète se doit de défendre. Je fais donc appel à vous, non pas à l'ami, mais au poète, à l'homme. Romain Rolland, parlez, parlez. Dans quelques années, lorsque l'on se souviendra tous de cette guerre, vous vous demanderez, qu'ai-je accompli alors? Et si vous n'aviez réussi que cela, qu'un seul malade en pays ennemi ait pu bénéficier d'une once de bonté, vous pourrez vous dire, je n'ai pas été complètement inutile. C'est une époque horrible. Et elle exige que l'on se montre réellement humain pour ne pas en être indigne.
Genève, 10 octobre 1914. Cher Stefan Zweig, que ne pouvons-nous nous voir? J'estime que le plus grand service que rendrait au monde des hommes comme nous, qui voudraient travailler à dissiper les malentendus meurtriers entre les nations et à diminuer les horreurs de la guerre, serait de se réunir en pays neutre, afin d'empêcher les mensonges et de combattre efficacement la haine. Nous avons au milieu, au-dessus du combat, un regard de modérateur à jouer. Je travaille à Genève, à l'Agence internationale des prisonniers de guerre, sous la direction de la Croix-Rouge internationale. Nous servons d'intermédiaire entre les prisonniers allemands, autrichiens, russes ou français et les familles qui les recherchent. Plus de 4000 lettres par jour. Toutes les angoisses du monde viennent à passer entre nos mains. Pauvres et riches, grands seigneurs et paysans, c'est l'égalité devant la douleur. Une situation particulièrement cruelle est celle des prisonniers civils. Vous savez que depuis le début de la guerre, on a pris de tous côtés des milliers de ces pauvres gens. Qui sait si notre Vera Reine ne se trouve pas parmi eux? Et l'on ne sait rien d'eux. On ne peut même pas savoir où ils sont internés. Il me semble, cher Stefan Zweig, qu'ici, l'initiative charitable privée pourrait faire beaucoup, à défaut de l'action officielle. Si des hommes et des femmes d'Autriche, d'Allemagne, de France, si nos grands intellectuels des quatre pays aux prises voulaient se mettre à la recherche de ces camps d'internés civils, en dresser la liste et la communiquer d'un pays à l'autre, ce serait une grande œuvre humaine.
Vienne, 4 novembre 1914. Très cher ami, c'est sans surprise que j'ai lu les attaques portées contre vous en France en tant qu'ami des Allemands. Maintenant, je peux bien vous le dire, je suis dénigré à mon tour parce que je vous ai introduit ici et parce que je n'ai pas cessé de souligner votre sens de la justice. C'est un honneur en ce moment de ne pas être tout à fait de l'avis des masses.
Je résistais à l'ouragan de fureur fratricide qui broyait les grands peuples de l'Occident.
Romain Rolland.
J'ai maintenu, en dépit de tout, la fraternité franco-allemande et, au-delà, européenne. Je fus pour cela le Français le plus haï en France. Beaucoup de ceux qui avaient été mes amis d'avant 1914 ne me l'ont point pardonné.
Vienne, 9 novembre 1914. Très cher ami, je vous écris à l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Aujourd'hui seulement, je m'aperçois des ravages terribles que la guerre a provoqués dans mon univers humain et spirituel. Tel un exilé, dépouillé et sans ressources, je suis obligé de fuir la maison en feu de ma vie intérieure. Pour aller où, je n'en sais rien. Je redoute terriblement les journées et les années à venir. Comment sera ma vie, qui jusqu'à présent se faufilait librement entre les préjugés? Comment vais-je pouvoir respirer au milieu de toute cette malveillance? Hors d'Allemagne, il y aura partout de la haine pour ce pays pour de longues années encore. Et en Allemagne même, à nouveau cette haine envers les autres. J'ai peur de moi-même, peur de succomber malgré moi à ce poison. Ma vie me semble à présent déchirée et privée de sa joie spirituelle la plus élevée. Qui me rendra mon sentiment européen et le sens de l'humanité? Ces centaines de milliers de morts vont élever leur voix. Ils vont s'emparer de tout notre espace, de tout notre bonheur, à nous les vivants. Je sens que j'ai profité de ce qu'il y avait de mieux dans mon existence, et je me demande à présent s'il ne serait pas préférable, bien que je manque de foi, de me jeter dans la mêlée et d'y disparaître. Mon monde, le monde que j'aimais, est de toute façon détruit. Tout ce que nous avons semé est foulé aux pieds. À quoi bon recommencer une nouvelle fois ?
Genève, le 12 novembre 1914. Mon cher, mon pauvre Stefan Zweig, votre douloureuse lettre m'émeut profondément. Je comprends votre peine. Il ne faut pas se décourager. Ce sont les grands jours d'épreuve, ce sont les temps héroïques pour les hommes comme nous. Que deviendra le monde après qu'auront passé ces cyclones de haine? Que restera-t-il de l'Europe? Je sais qu'il restera nous, et qu'il s'agit de sauver en nous l'esprit européen, ce n'est pas assez dire, l'esprit universel. Donnons l'exemple, Zweig, d'hommes qui n'abdiquent point, qui ne se renient pas eux-mêmes. Je ne cherche pas à convertir les hommes, je cherche à sauver de la tourmente le trésor divin dont j'ai la garde. Mon salut, c'est celui des hommes. Qu'adviendra-t-il de nous après cette guerre? Peut-être qu'il n'y aura plus de place pendant quelques années en France et en Allemagne pour des gens comme nous. Qui sait s'il ne faudra pas aller en Amérique? Et croyez, quoi qu'il arrive, que je suis et je reste votre ami autant et plus que par le passé. Genève, 15 mars 1915. J'ai de cruelles attaques à subir. Elles viennent chaque jour plus violentes et je suis chaque jour plus isolé. Mais je continue ma route. La politique n'est pas mon affaire. Mais ce qui est mon affaire, c'est la pensée et c'est l'amour. Je ne combats point la guerre, elle n'est pas mon domaine, mais je combats la haine. Affectueusement à vous.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Gehe ich mit zu meiner Ruhe. Bist du bei mir, geh ich mit Freude
zum Sterben
und zu meiner Ruhe. Zum Sterben und zu meiner Ruhe.
En 1918, les espoirs de paix suscitent des sentiments contradictoires. Dans le camp des vainqueurs, Romain Rolland partage le même pessimisme que son ami vaincu. Car au-delà de l'armistice, le traité de Versailles de 1919 accablera l'Allemagne sous le poids de réparations financières et sous le poids de l'humiliation qui feront le jeu du national-socialisme. Mais revenons au début de l'année 1918. À la suite de la révolution russe, la montée du mouvement révolutionnaire en Allemagne enthousiasme, puis inquiète Stefan Zweig à son tour. Zurich, 30 janvier 1918. Mon cher ami, nous sommes tous très excités par les nouvelles d'Allemagne. Les grèves là-bas qui sont faites après les nôtres en Autriche peuvent devenir un événement historique. Peut-être que c'est l'aurore. Cette année, je n'aime pas faire l'augure, mais je le sens avec toutes les forces de mon âme, sera décisive. La paix ou la révolution termineront cette dernière crise de l'Europe.
Jeudi 11 avril 1918. Cher ami, je ne crois même plus que des révolutions soient efficaces. Elles ont trop attendu. Je compte seulement sur l'éternelle résurrection des peuples, sur la force d'oubli et de recommencement qui est incrustée en cette race humaine.
Le 4 octobre 1918. Mon très cher et grand ami, il paraît que rien n'arrêtera plus la paix, mais je doute fort que cette paix mérite le mot. Car quels combats commenceront alors au sein de l'État ? L'autre guerre, la bataille sociale. En Allemagne et en Autriche, c'est une crise de lassitude soudaine. C'est la fatigue immense d'une guerre immense qui se brise d'un seul coup. L'idée que le sang des hommes ne sera plus versé pour des idées, les funestes comme les grandioses, me fait grand bien. Je commence à revivre.
Samedi 2 novembre 1918. Cher ami, si j'étais allemand, je serais étreint et déchiré jusqu'au fond de l'être par la tragédie de ces journées. Vous le dirai-je tout à fait entre nous ? j'en souffre plus que beaucoup d'Allemands. Je ne puis voir s'écrouler quelque chose de grand, même ennemi, même odieux, sans émotions religieuses et funèbres. Je salue ceux qui meurent. Nous aussi, nous mourrons.
18 décembre 1918. Mon cher et grand ami, je vous espère déjà tout à fait remis de la récente attaque de grippe, mais je crains que l'état moral de l'Europe entière ne soit pas fait pour vous redonner bonne humeur. J'ai des moments où je me demande s'il vaut la peine de vivre les 20 prochaines années. Je suis écrasé par le poids d'une haine dont je ne me sens pas coupable. Haine contre l'Allemagne provocatrice de cette guerre, haine contre les capitalistes et les industriels en Autriche comme profiteurs de guerre. La vie sera insupportable là-bas pour ceux qui ne sont pas des ambitieux et des hommes de violence. Des hommes de ma nature seront anéantis, ils n'auront pas le peu d'air nécessaire pour vivre. Et où fuir ? Le monde sera fermé et je ne peux pas vivre dans la prison d'un État qui lui-même me déteste comme étranger et comme ennemi. Impossible au cours des derniers siècles de trouver une situation aussi critique que celle d'un juif autrichien, auteur de langue allemande. Liberté des peuples, c'est un mensonge parce que les peuples enferment les hommes. Triste fête, mon cher ami, triste avenir. Mais vous avez au moins une grande tâche d'être celui qui représente la raison française. Votre présence invisible à mes côtés est pour moi l'espoir lui-même, presque le dernier.
Vendredi 21 décembre 1918. Mon cher ami, je souffre pour vous et avec vous. Votre situation est douloureuse. La mienne ne sera pas facile non plus. Mes amis de Paris me confirment les rancunes durables accumulées contre moi. L'avenir politique et social immédiat est lourd de menaces. Et l'attitude très ferme de nos socialistes et le réveil de l'esprit révolutionnaire peuvent redoubler les rigueurs de la réaction. Mais jusqu'au dernier souffle, je lutterai pour l'idéal de raison et d'amour fraternel dont je me sens investi.
2 janvier 1919. Mon cher ami, votre lettre affectueuse arrivait le dernier jour de cette année tragique. Je vous le répète, le nationalisme, la haine, couve en Allemagne sous les cendres de la défaite. Cela sera un réveil terrible. L'Allemagne sera, je le crains, une copie de la France de la revanche. Dans 5 ans, l'injustice aura sa moisson. Quand elle se réveillera un jour de son rêve de fraternité, l'Allemagne deviendra plus haineuse qu'aux pires époques de la guerre. Espérons que l'espérance ne meure pas sur cette pauvre terre. 5 ans plus tard, en effet, des événements inquiétants vérifient les craintes des deux amis. Dans les années 20, Romain Rolland se passionne pour la philosophie indienne et la politique de la non-violence de Gandhi, tandis que Stefan Zweig connaît ses premiers grands succès littéraires, Amok en 1922, Lettre d'une inconnue en 1924, La confusion des sentiments en 1926. L'écrivain autrichien parcourt les capitales européennes pour donner des conférences sur le pacifisme et transmettre la pensée de son ami qu'il considère toujours comme son maître et, je cite, « la plus grande personnalité morale de l'Europe ». Mais de retour chez lui à Salzbourg, à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, Zweig est témoin de la profonde crise politique que traverse le pays voisin. Nous sommes en 1923, 10 ans avant l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Salzbourg, le 16 novembre 1923. Mon cher ami, ce qui se passe en Allemagne surpasse les attentes les plus tristes. Folie sur folie. En Bavière, les Ludendorff et Hitler ont envenimé le pays. Suppression complète des journaux socialistes, défense de faire entrer des journaux de Francfort ou de Berlin, une censure plus violente qu'au temps de la guerre, pillage sous prétexte de recherche d'armes, un antisémitisme forcené qui interdit par exemple la représentation au théâtre des œuvres des auteurs juifs ou suspects d'être de sang juif, expulsion en 24 heures de personnes qui habitent Munich depuis 20 ans. Une terreur comme l'histoire ne connaît que très peu d'exemples. Rien de plus infernal qu'une haine sourde qui cherche une issue quelconque, l'explosion sera terrible. Tous nos amis s'en vont. Personne ne veut plus respirer cette air empoisonné. Nous qui vivons à 10 minutes de la frontière, regardons cette mer de haine comme d'un port sûr. Mais pour combien de temps encore ?
Mussolini.
À son tour bouleversé par l'assassinat de plusieurs de ses amis parmi les intellectuels italiens, Romain Rolland fustige un autre dictateur et sa terreur noire.
Villeneuve, Suisse, 20 septembre 1926. cher ami, nous sommes à deux doigts de la guerre. Si elle n'éclate pas demain, ce sera grâce à l'intervention de l'Angleterre, si elle se produit. Mais évitez demain, elle éclatera après-demain. Le demi-fou, ou bien le double fou, qui déchaîne les quarts de fou que sont tous les Italiens, en arrivera à ses fins. L'homme est un intoxiqué cérébralement, qui prône jusqu'à la démence la mort toujours présente. Et le sort du monde est lié au sursaut de ce corps gangréné.
Retrouvons Stefan Zweig en 1933, quelques mois après l'accession au pouvoir d'Hitler. Dans la lettre suivante, l'écrivain autrichien évoque parmi les violences commises par les hitlériens un grave événement qui le touche de plein fouet. Comme dans tous les moments difficiles, il se tourne vers son ami. Mais la relation avec Romain Rolland semble s'être distendue, au point que celui-ci, qui lui répond pourtant dès le lendemain, reste étrangement sourd aux cris de détresse de son ami. Canedabia, lac de Côme, 26 avril 1933. Mon cher et grand ami, je suis allé 8 jours en Italie. Qui sait si cela ne sera pas ma dernière escapade pour longtemps, car les choses en Autriche vont de plus en plus vers la dictature nationale-socialiste. Mais ce qui m'effraie est autre chose, l'indifférence morale du monde. Toutes les violences, tous les crimes se font impunément. Tous les excès ne provoquent que l'admiration. Quant à moi-même, j'ai la surprise de n'être plus un auteur allemand. Mes livres sont chassés de toutes les bibliothèques et seront brûlés publiquement dans toutes les universités d'Allemagne fin mai. Naturellement, je ne puis rien publier, ni dans un journal, ni en livre pour longtemps. Sous peu, je serai si isolé, et plus même que vous ne l'avez été en France. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai vécu. J'ai fait en partie mon œuvre. J'ai encore à vivre quelques années. J'ai intérieurement déjà dit adieu à toute ma possession, ma maison, ma collection, mes livres, tout cela, c'est comme si cela appartenait aux autres. Mais la jeunesse, la souffrance de ceux qui n'ont pas encore dit leurs mots, et ceux dans les prisons, et les milliers dans la prison éternelle de la peur. Jamais la folie de l'unification n'a autant triomphé que dans l'Allemagne de maintenant. Et personne n'osera s'opposer à cette force folle, ce flot d'orgueil qui veut envahir toutes les frontières. Mon ami, je le sens, nous mourrons vaincus.
Villeneuve, 28 avril 1933. Cher ami, vous me semblez mal informé. Vous parlez de l'indifférence du monde. Merci du peu. Évidemment, si vous ne sortez de votre cercle austro-hongrois que pour vous rendre chez l'allié fasciste italien, vous n'avez pas beaucoup de chances d'être renseigné. Mais quand on lit, comme nous faisons, des journaux et des lettres de tout pays, on est frappé tout au contraire de la quasi-unanimité de la condamnation de l'hitlérisme. L'Angleterre, la France, même la Suisse. Je ne partage donc aucunement votre pessimisme. Au reste, victoire ou défaite n'ont jamais été mon point de mire. J'aime le combat. Je voudrais éviter de rien dire qui risque d'influer sur vos décisions. Nul n'a le droit de substituer son jugement à celui d'un ami. À chacun ses yeux. Il faut que chacun se décide par soi-même. La partie d'ailleurs n'est pas égale. Je suis en Suisse, vous êtes tout proche de la ligne de feu. Mais si vous me demandez mon avis, il peut à aucun moment être autre que celui-ci. Il faut se maintenir, à tout prix, la liberté de parler et d'écrire. Rester sous le bâillon pour consoler par sa présence ceux qui n'ont pas de langue est une consolation dérisoire. Je vous serre la main affectueusement.
Sous le ton provocateur de Romain Rolland se cache sa déception envers son ami qui, selon lui, tarde à prendre position contre les nazis. S'interrogeant sur son propre engagement, Stefan Zweig en vient peu à peu à parler à la première personne du pluriel. Un « nous » qui désigne non plus les pacifistes aux côtés de Romain Rolland, mais les écrivains autrichiens. Puis, finalement, la communauté juive. Voici une lettre d'une très grande lucidité sur la menace qui guette. Salzbourg, le 15 juillet 1933. Mon cher ami, ce qui se passe en Allemagne, je n'ai rien à vous raconter, vous lisez, je le sais, les journaux. Le comble était la demande de la Société des aveugles d'exclure les non-ariens. Tout est surpassé par ce que notre imagination pouvait trouver. Il est très difficile pour nous de prendre la parole. On tuerait avec un mot des dizaines d'innocents. Je viens de causer avec un réfugié de Dachau, le fameux camp de concentration, un homme de 65 ans. On l'a forcé à faire chaque jour de la gymnastique militaire. On l'a battu. Je ne pouvais plus dormir de toute la nuit après ce qu'il me racontait en détail. Et avec cela, être obligé de rencontrer chaque jour des gens qui trouvent que la régénération des races a commis quelques erreurs, mais que le futur montrera sa nécessité. L'Autriche est perdue, à mon avis. Ne vous laissez pas tromper par les journaux. La France, l'Angleterre font des gestes encourageants, pas plus. L'Allemagne agira. L'attaque viendra soudainement. Tout est préparé. L'Europe se réveillera un jour et il sera trop tard. Moi, je suis préparé. Je quitterai Salzbourg en septembre, ou plus tôt. J'irai en Suisse vous rendre visite, puis à Londres. En ce moment, il faut agir, et stimuler par sa présence et par des lettres l'indifférence funeste. Tout le monde est fatigué, excepté les nazis. C'est leur grand avantage. J'ai presque oublié que j'étais un jour écrivain. Je ne travaille à presque rien. Une torpeur m'envahit, un dégoût énorme. Tout de même, pourquoi le nier ? Ils nous ont frappés au cœur. Chaque jour apporte des exemples de lâcheté, de brutalité, de stupidité. Et les cris de ceux qui meurent assassinés héroïquement restent inaperçus. Personne ne saura jamais toutes les scènes de martyrs qui se déroulent tous les jours. Hélas, les années 30 voient se durcir les conflits entre les deux écrivains. Enthousiaste pour la révolution russe dès 1917, Romain Rolland réaffirme son soutien à la cause bolchévique et se rapproche du Parti communiste français. En 1934, il se marie avec une Russe, Masha Koudacheva. La même année, Stefan Zweig se résout à quitter son pays et se réfugie à Londres en exil. Méfiant à l'égard de tout parti, il reproche à son ami de s'être russifié, tandis que Romain Rolland lui reproche son manque d'engagement. En 1936, alors que l'écrivain français est enfin considéré par le nouveau Front populaire à Paris, un désaccord profond sépare les deux hommes concernant les procès de Moscou et la dictature de Staline. Londres, 5 décembre 1936. Mon cher ami, c'est depuis longtemps que je désire vous écrire. Je viens de lire le livre d'André Gide, Retour du RSS, et j'en suis bien content. Vous savez que je n'ai jamais pu vous suivre dans l'acceptation en bloc de tout ce qui se passe là-bas. J'ai lu la brochure sur le procès de Zinoviev, qui démontre clairement et irréfutablement que mains aveux étaient produits, fabriqués. Et autre chose, l'idolâtrie personnelle de Staline. Le culte qu'on a organisé pour Mussolini et Hitler ne devrait pas avoir un pendant dans un pays libre. J'ai vu sur trop de photographies comme on abuse de toutes les fêtes pour montrer toujours et toujours le même portrait de Staline. Ce n'est pas lui seul qui a fait l'URSS, c'est le peuple. Ce n'est pas lui qui a tout inventé. Cette déification d'un dictateur par sa propre volonté est en contraste absolu avec l'anti-individualisme que prêche le bolchevisme. Et je me demande si ce ne serait pas souhaitable qu'un homme de votre influence tâche de dire en sous-main un mot à Moscou. Je crois que ce serait le plus grand service qu'un vrai dévoué pourrait faire en ce moment. Car le stalinisme, cette nouvelle religion du « Staline a toujours raison », commence à falsifier le bolchevisme. Les Russes eux-mêmes ne peuvent rien faire. Seuls les vrais amis de la Russie, comme vous et Gide, pourraient le faire. C'est là votre devoir.
Villeneuve, Villa Olga. 23 juin 1937. Cher ami, votre dernière lettre me fait craindre que nous n'ayons perdu contact. En dépit de tout ce que je vous ai écrit précédemment et dont vous semblez ne pas avoir voulu retenir les très nettes affirmations, vous me prêtez sur les événements de Russie votre pensée qui n'est pas du tout la mienne. Que les complots en URSS soient déplorables, je le pense, certes, avec vous. Je pense même qu'ils sont abominables. Mais d'autant plus est-il naturel qu'il soit réprimé avec une implacable énergie. Si un tel état de choses a des répercussions désastreuses en Europe, qui donc faut-il en accuser? Vous avez toujours, en ces affaires, pris la position préalable de considérer comme innocents les trotskistes, les Kamenev, les Zinoviev, voire les Tukhachevski. Vous avez accepté la thèse de leurs partisans en Europe, accusant Staline d'avoir machiné ses procès pour établir sa domination personnelle. Ma façon de voir et de juger est opposée à la vôtre. Et il faut que ceci soit clair entre nous. Vous me parlez de la Révolution française, mais justement, l'histoire se répète, car elle obéit aux mêmes lois. Une révolution ne peut s'accomplir sans avoir constamment à combattre les ennemis du dehors et du dedans. Qu'y faire? Ce sont les lois de la vie. Elles n'ont jamais été économes des vies humaines. Vous me semblez aussi parler du Front populaire de France en homme qui ne lirait que les journaux ennemis. Vous ne vous rendez pas compte du grand travail social accompli.
Lugano, Suisse, 10 septembre 1937. Mon ami, je sais bien que vous ne me pardonnerez pas d'être indécis envers la Russie. Je ne me sens pas du tout éloigné de vous, regrettant ces épurations et la façon dont on les affiche comme répugnant à ma conception de la liberté. Et je sais que vous, comme nous tous, désirez que la terreur finisse enfin. Je crains que la Russie ne soit bientôt obligée de verser son sang dans des combats beaucoup plus décisifs. Tout est dans la peur de la guerre qu'on fera par peur. Jamais l'opposition pacifiste n'a été si faible. Et mon ami, les meilleures espérances de nous tous ont été tellement anéanties qu'il faut inventer en soi un nouvel enthousiasme. Il viendra à son heure. J'ai confiance.
26 septembre 1937. Cher ami, non, ne croyez pas que je vous en veuille de vos sentiments sur la Russie. Je ne suis pas si tyrannique. J'aime la liberté d'esprit chez mes amis, comme j'y tiens pour mon propre compte. J'ai des amis trotskistes. J'en ai même des hitlériens. Nous avons bien le droit, vous et moi, de penser en toute sincérité, différemment, sur tous les sujets, aussi bien politiques qu'intellectuels. C'est la condition même d'une recherche loyale de la vérité. À vous, très affectueusement.
Au-delà des désaccords, l'amitié redevient une consolation. En exil à Londres depuis 1934, Stefan Zweig souffre de solitude. Il a quitté sa femme, Frédérique, qui ne voulait pas le suivre, trop attaché à la ville de Salzbourg. Sans papier, il vit reclus comme un apatride, car bientôt l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne le destitue de toute nationalité. Paris, 16 février 1938. Mon cher ami, c'est un jour triste pour nous, Autrichiens. Une patrie perdue pour toujours. Un dernier pivot brisé. Pour nous, écrivains, la situation est terrible. Nous perdons notre dernier public en langue allemande. Nous perdons notre langue. Personnellement, je m'attendais à cela depuis 4 ans. Rien ne pouvait tromper ma conviction. Et contre la volonté de ma femme, qui regrette maintenant de ne pas m'avoir suivi et d'avoir pris de nouveau son séjour à Salzbourg, j'ai quitté ma maison, j'ai abandonné mes livres, mes collections de manuscrits, pour sauver la chose unique, ma liberté.
Villeneuve, Suisse, Villa Olga, 1er mars 1938. Cher ami, je sympathise affectueusement avec ce que vous souffrez de l'horreur de ce temps. C'est une des heures les plus tragiques de l'histoire. Je ne doute point que l'humanité n'en sorte. Mais alors nous en serons sortis. Il faut tâcher de fortifier notre univers intérieur.
Londres, 2 mai 1938. Je n'aime pas vivre à Londres. Je me sens ici dépaysé. Je ne veux pas devenir anglais aussi longtemps que je puis. Je rêve d'aller peut-être en Amérique du Sud. Je ne vois ici personne. Je souffre de ce monde, de la folie de cette époque. Vous ne devinez pas ce que cette dernière victoire de l'hitlérisme me coûte de force intérieure. Si je pouvais, je quitterais la ville et même le monde.
Vézelay, 24 juin 1938. J'espère que vous vous établirez définitivement en Angleterre. Je ne vous vois pas installé au Brésil. Il est trop tard dans nos vies pour y prendre racine profonde. Et sans racine, on devient une ombre. Vous trouverez bien dans la grande île britannique un noble asile. Affectueusement à vous.
Nous voici bientôt parvenus au terme d'une longue amitié de 30 ans. Ouvrons les dernières lettres entre Romain Rolland et Stefan Zweig, l'année où éclate la Seconde Guerre mondiale. Bath, 15 juillet 1939. Je ne vous ai pas vu depuis presque 3 ans, mais je me souviens de chaque parole, dès la première rue Montparnasse en 1911, de tout cœur.
Vézelay, Yonne, 18 juillet 1939. Cher ami, je ne vous parle pas de politique, on en est là. On en entend assez par les journaux et la radio. Chacun s'organise comme il peut dans la situation catastrophique et cultive son jardin. Advienne que pourra.
Bath, 23 août 1939. Mon ami, advienne que pourra. Il importe seulement pour nous de n'avoir pas menti avec les menteurs, d'être resté debout et sobre.
Vézelay, 18 septembre 1939. Mon cher ami, Oui, pour détruire Hitler et l'hitlérisme, nous sommes d'accord, pleinement d'accord. Et jusqu'au bout. Nous étions les anti-hitlériens de la première heure. Nous resterons ceux de la dernière heure. Je relis Stendhal. Il est la revanche des hommes libres.
21 octobre 1939. Mon cher ami, ma situation n'est pas encore changée. Je serai cité devant un tribunal pour les étrangers ennemis. Et là, il sera décidé de ce que je suis, de ma position envers l'Angleterre. Tout cela ne m'afflige pas du tout. Je suis depuis 6 ans déjà habitué à cette situation d'exilé. Ce qui m'opprime plus est l'atmosphère morale, ou plutôt immorale, de notre vieille Europe. J'ai la ferme volonté de voir un peu de ce monde nouveau qui va sortir de ce chaos. Donc, courage et ténacité. Même au fond de l'abîme, on peut voir un peu de ciel et des astres si on lève courageusement la tête. Je suis résolu d'être plus fort que l'épreuve. Je pense souvent à vous et à tous nos ferveurs et espoirs de l'autre guerre. Et je me sens plus fort en vous sachant le même, comme je suis resté le même.
Vézelay, 20 février 1940. Cher ami, n'attendez pas que s'élève ici, non plus qu'où vous êtes, aucune voix qui sorte de la consigne générale. C'est matériellement impossible. La guerre a seule la parole. Elle la gardera jusqu'à la victoire. Après, l'histoire recommencera. L'humanité est faite pour marcher, marcher, jusqu'à ce qu'elle tombe. Notre seule ressource est de nous intéresser au chemin.
Mais l'histoire finit par séparer les deux hommes. L'été 1940, peu avant son départ définitif pour l'Amérique du Sud, Stefan Zweig espère revoir Romain Rolland à Paris. Mais celui-ci, quittant définitivement la Suisse pour la Bourgogne, est préoccupé par son déménagement et ne donne pas suite aux appels de son ami. Les deux hommes se manquent de peu. Quelques mois plus tard, l'écrivain autrichien quitte l'Europe pour le Brésil. Il est accompagné de sa seconde femme, Lotte. Le 21 février 1942, à l'âge de 60 ans, Stefan Zweig met un point final à ses mémoires. Il envoie le manuscrit à son éditeur qui le publiera après-guerre sous le titre « Le monde d'hier ». Le 22 février, Stéphane et sa femme Lotte se suicident ensemble dans leur maison. Romain Rolland apprendra la mort de son ami par la radio. L'écrivain français meurt 2 ans plus tard en 1944 à Vézelay, à l'âge de 78 ans.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen. Pas de quais et pas de rengaines qui se lamentent et qui se traînent. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense. Mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mon Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent, le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La 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 la. Et c'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Voici pour conclure cette émission une lettre qui est peut-être le plus beau testament littéraire de Stefan Zweig. Mon ami, vous et moi qui avons toujours pris le parti des vaincus, à quelle défaite avons-nous dû assister ces derniers mois, ces dernières années ? Et la plus grande déception de toutes était peut-être de voir la déchéance de la parole. Comme nous sommes devenus impuissants dans ce monde de violence qui se fiche de la vérité, de la morale, qui montre impudiquement les poings et qui rit, qui se moque de tous les traités, de toutes les promesses. On dirait que tout est superflu aujourd'hui, sauf les avions et les canons. La vie humaine ne compte plus et le rêve de la civilisation est terminé. Mais je ne regrette pas notre foi, notre optimisme d'autrefois. Au contraire, je cherche toujours à me raffermir l'âme par la foi que tous ces cauchemars passeront et que le besoin de liberté, d'indépendance, rejettera un jour cette idole carnivore de l'État-Dieu. Peut-être que l'heure viendra où notre foi pourra devenir utile et féconde et nous verrons encore l'aube nouvelle.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Stéphane Desmond à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikois, Perrine Maninge et Claire Tessert. Merci beaucoup Hervé Pierre.
Merci à toi Guillaume.
Bonne soirée et à la semaine prochaine.